France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse Week-end. Et ce matin, un sujet rassembleur dans une France fragmentée. Le pain, un élément essentiel de notre culture gastronomique, un élément fondamental de notre patrimoine historique et culturel, de la baguette parisienne à la fougasse provençale, en passant par la couronne lyonnaise, sans oublier les pains du monde, le pain tagine au Maghreb, la pita gréco-libanaise ou encore le white English bread. Plaisir de déguster du pain sous toutes ses formes, en compagnie de l'historien et sociologue de l'alimentation, Éric Birloez. Et vous, racontez-nous votre histoire d'amour avec le pain. Comment l'aimez-vous? Quel plaisir vous procure-t-il? Quels sont vos pains préférés? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France. Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rébéi.
Chef du One Place à Rungis, dans le Val-de-Marne. Une recette très gourmande, hein, tout à l'heure.
Ouais, une recette assez sympa, une recette très classique qu'on trouve dans tous les palaces et que je vous expliquerai.
Bonjour Christine Lapelle-Edouel.
Bonjour Ali.
Autrice de ces livres qui nous font du bien, quel sera votre plaisir littéraire tout à l'heure?
Eh bien, ce sera un roman d'une amie à nous qui s'appelle Sonia Ferchak et que vous connaissez bien, que vous connaissez parce qu'elle a publié une biographie, enfin un essai sur Agatha Christie et un petit essai très joli sur le plaisir des haies. Bien dit les haies.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Professeur de philosophie dans le monde réel. Quel est le menu de votre chronique philo?
Eh bien, qui dit pain dit... Pardon, qui dit pain dit levain. Et si le pain au levain était une invitation à prendre soin de la lenteur?
À tout à l'heure. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Chef de rubrique cinéma Télérama dans la vraie vie. Qui deviendra notre ami cette semaine?
Écoutez, c'est une amie qui va me permettre de faire vraiment des révélations sur mes addictions.
Voilà, et c'est vraiment une amie imaginaire, hein, pour le coup.
Oh non, pas du tout. Oh là là, elle est tellement réelle, ça se voit à la taille de mes hanches.
Hein. Rassurez-moi, vous ne lui parlez pas.
Ça peut arriver.
D'accord, bon. Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Ali.
Maîtresse de conférence en linguistique à la Sorbonne. Quel est le menu de votre chronique avec la langue?
Eh bien, on est mi-janvier, donc il est temps de revenir, d'avoir un petit retour critique sur les souhaits qu'on s'échange depuis le 31 décembre. Et donc, j'ai préparé une sorte de petit quiz pour voir si on est plus ou moins impliqué dans nos relations.
Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
J'arrive. Pour la première fois à Paris, j'avais faim, je rentre dans une boulangerie, j'étais éberlué par cette variété de choses, par les odeurs qui étaient formidables. Je demande un pain qui s'avère être un pâtard, je sors, j'ai mis le pain à la bouche. C'était quelque chose de sismique pour moi. D'abord, il y avait une espèce de rush, il n'y a pas d'autre mot. C'était quelque chose qui m'est entré dedans avec des arômes rétro-nasales de fleurs, de fruits, notamment cerises, noir, il y avait aussi un peu de patate douce, et j'avais l'impression que j'allais aller comme Alice dans un grand trou, que j'allais pas m'en sortir.
L'historien Steven Kaplan sur France Culture en 2020. Bonjour Éric Birloez.
Bonjour Ali.
Vous êtes ingénieur agronome, sociologue et historien de l'agriculture et de l'alimentation et vous venez de publier chez Quae un très beau livre richement illustré, Le pain, une croustillante histoire. Alors le pain c'est un aliment qui crée du lien, c'est sans doute l'un des sujets de conversation les plus fédérateurs. Selon un sondage pour la Fédération des entreprises de boulangerie, 87% des Français ont toujours du pain chez eux et 48% déclarent qu'ils ne pourraient pas s'en passer. Et c'est évidemment votre cas, Éric Birloez.
Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, effectivement, quand on demande aux Français quel est l'aliment qui leur manque le plus quand ils font un long séjour à l'étranger, eh bien, c'est le pain devant le fromage, devant le vin. Il y a un véritable attachement culturel au pain en France. Et d'ailleurs, Steven Kaplan, qu'on entendait à l'antenne il y a quelques secondes, il a une formule que j'aime beaucoup. Il dit « on est Français par le pain ». Enfin, dans beaucoup de pays, on vous dit ça. Hein. C'est-à-dire que finalement, l'étranger, c'est pas celui qui parle une autre langue que la nôtre ou qui a une autre religion ou d'autres mœurs. C'est d'abord celui qui ne mange pas comme nous. Et on pourrait même dire celui qui ne mange pas le même pain que nous. C'est-à-dire que le pain, c'est vraiment un élément, un facteur d'identité collective. Et en France, on a vraiment, c'est-à-dire le titre d'un de mes chapitres, une passion française pour le pain.
Parce que le pain, c'est beaucoup plus qu'un aliment.
Oui, c'est beaucoup plus qu'un aliment, donc je le disais, c'est de l'identité collective. Et puis, alors, on peut d'ailleurs se poser la question de savoir pourquoi nous, les Français, nous sommes aussi obsédés, en quelque sorte, par le pain.
Mais oui, parce qu'Éric Birloise, il existe des pains presque partout à travers la planète, il existe 1000 sortes de pains à travers le monde. Comment expliquer la relation singulière que les Français entretiennent avec le pain ?
Alors, on a des hypothèses. La première, c'est que on a... En France, sur le territoire qui s'appelle la France aujourd'hui, on est un peu béni des dieux. C'est-à-dire qu'on a un climat tempéré qui permet, et des terres fertiles, parmi les plus fertiles du monde, en Beauce par exemple, qui permet de cultiver du blé. Et le blé, c'est la céréale panifiable par excellence. Et déjà, dès l'époque romaine, les Gaulois étaient réputés pour la qualité de leur blé et les boulangers gaulois étaient réputés pour la qualité de leur pain. Donc, il y a cette double dimension de terroir, hein, donc de climat, de qualité des sols, et puis le savoir-faire, la maîtrise de nos ancêtres boulangers. Le boulanger, c'est celui qui fait des boules, mais à l'époque, on l'appelait le talmelier. C'est l'ancien nom pour parler des boulangers.
Un jour, un humain a eu la bonne idée d'écraser des grains de céréales sauvages pour en faire un mélange avec de l'eau, ça s'est transformé en pâte, et cette pâte a été déposée sur une pierre chaude ou sur des braises, et ça a donné naissance à une galette fermentée.
Oui, alors,
ça a eu cette idée-là,
vraiment.
Qui a eu cette idée-là ?
J'aurais bien aimé être là à ce moment-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'avoir ce pain levé que vous décrivez, donc le pain que nous, les Français, nous aimons particulièrement, cette mie alvéolée, légère, cette croûte croustillante, les premiers pains étaient des pains non fermentés. Alors, il y a quelques années, c'est pas très vieux, c'était en 2018, on a retrouvé en Jordanie, dans une région qui s'appelle le désert noir, les archéologues ont retrouvé des miettes de pain carbonisées. Alors j'ai retenu qu'ils en avaient retrouvé 642 carbonisées, donc ça a pu les conserver. Et ils ont vu que ça avait été fait, ces miettes de pain, avec différentes céréales. C'était pas du blé, c'était de l'avoine, c'était du millet et de l'orge, je crois. Et c'est le plus ancien vestige de pain que l'on a et qui a été daté de 14 500 ans. Ça a l'air de rien, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est 3000 ans avant que les hommes commencent à cultiver dans cette région du monde du blé, de l'orge, etc. Donc c'était des chasseurs.
Rappelez la région où on retrouve ces premières traces de pain.
Alors c'est la Jordanie, une région qu'on appelle le désert noir. Et donc c'est du pain fait avec des céréales sauvages par des chasseurs-cueilleurs en voie de sédentarisation, mais pas encore sédentarisés. Donc on a fait du pain avant de cultiver le blé, l'orge, le seigle, enfin les autres, les céréales qui permettent d'avoir ce produit exceptionnel qu'est le pain.
Quel rapport entretenez-vous avec le pain autour de la table, Grégory Cohen ?
C'est essentiel. Traditionnellement, même culturellement et même religieusement, on rompt le pain. Donc c'est quelque chose qu'on faisait à chaque moment de prière pour le Shabbat dans ma famille, et indépendamment de ça, en tant que chef et dans mes restaurants, nous on a créé notre boulangerie, donc on fait nos pains. On fait nos pains, ça veut dire qu'on a réussi à mettre en place les recettes qui correspondent et on fait tous les pains. On va faire du buns, du bagel, de la baguette, du pain de mie, du pain complet. Et on a vraiment travaillé ça parce que c'est essentiel. Le pain, c'est vraiment le lien pour moi entre les personnes. Et voilà, je ne sais pas si cette expression d'ailleurs, elle est vraie, le copain.
Oui.
Oui.
Éric Birloise.
Oui, on dit effectivement, alors ça fait référence au Moyen-Âge, où on n'a pas d'assiette encore, qui n'arriveront qu'à la Renaissance. Et donc, en guise d'assiette, on utilise, alors chez les riches, chez les aristocrates, une tranche de pain à la mie bien dense que l'on partage avec son voisin ou sa voisine de table. Ce serait l'origine du mot copain, celui avec qui on partage son pain, c'est-à-dire en fait son repas.
Julie Neveu.
Oui, en fait, il y a beaucoup de traces dans la langue de l'importance du pain. Il y a aussi cette expression marrante que j'avais jamais vue, être à pain et à pot avec quelqu'un. Ça veut dire qu'on vit avec lui, en effet, parce qu'on partage le pain, le pot, avoir du pain sur la planche, évidemment, mais pour une bouchée de pain, manger son pain blanc, c'est du pain béni, je ne mange pas de ce pain-là, ôter le pain de la bouche. À chaque fois, il y a des connotations de l'ordre de quelque chose d'essentiel, et à la fois du travail, enfin, vraiment quelque chose de premier, quoi, dans les relations, dans les interactions humaines.
Oui, vous avez tout à fait raison, et d'ailleurs, puisque vous parliez de l'expression « avoir du pain sur la planche », aujourd'hui on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire « j'ai encore du travail à venir ». Mais jusqu'à la fin du 19e, ça ne voulait pas dire ça du tout. C'était beaucoup plus positif. Avoir du pain sur la planche, c'était avoir des boules de pain sur les planches sur lesquelles on les posait. C'est-à-dire avoir des ressources pour pouvoir voir venir. Et donc, mais il y a énormément d'expressions qui font référence au pain, mais également au pétrin. Être dans le pétrin, ça, ce n'est pas très positif. Mais ça fait référence à la difficulté, la pénibilité de pétrissage à la main. Et donc, donc les expressions et énormément de rituels autour du pain. Et je me souviens, mais je pense que je ne suis pas le seul ici, ma grand-mère qui, avec la pointe du couteau, traçait la croix sur l'envers du pain.
Ma grand-mère qui n'aimait pas, ma grand-mère maternelle qui n'aimait pas que le pain soit à l'envers sur la table. Guillemette, dis sinon.
Non, et puis il y a cette fascination sur le fait que personne n'aime la même baguette. Ah. Non, mais c'est un truc de dingue quand même. Bon, un moment, par exemple, je sais pas moi, une bonne daube provençale, ça, c'est une bonne daube provençale. La baguette.
C'est pas consensuel.
C'est pas consensuel du tout. Quelqu'un va, dans une même rue, quelqu'un va vous dire je préfère évidemment le pain de tel boulanger. Vous allez, mais lever les yeux au ciel, mais non, ça, la baguette de l'autre est meilleure. Personne ne s'accorde jamais. Je trouve ça fascinant, moi.
Allez, dans un instant, on continue à célébrer le plaisir du pain. Et à 10h17, il est l'heure du plaisir littéraire de Christy Lapelle-Edouel. Alors, Christila, vous avez choisi Ne vois-tu rien venir, un roman de Sonia Fairchak, publié chez Flammarion.
Et oui, c'est le premier roman, je crois, de Sonia. Et je dirais qu'elle a inventé, avec ce livre, un nouveau genre. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est le psychopolar. C'est-à-dire qu'elle se plonge vraiment avec son histoire dans une enquête psychologique sur un drame qui se produit. Pourquoi, les personnages, que ressentent-ils, etc. Et tout ça est vu et raconté par les yeux d'une jeune fille, son héroïne qui s'appelle Lise et qui a 17 ans au début du roman. En tout cas, au tout début du roman, et ça sera un long retour en arrière, la jeune fille est assise sur un tabouret dans un commissariat et elle est interrogée. On ne sait pas pourquoi et bien sûr on va le découvrir au fil des pages. Alors le titre, réfléchissez bien au titre, ne vois-tu rien venir, essayez de
Barbe
voir.
Barbe bleue.
Bravo. Ouais.
Anne, ma sœur Anne.
Voilà. Et c'est avec cette thématique qu'elle va dérouler toute l'intrigue. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle observe cette jeune fille, elle inscrit tout dans son journal intime, elle observe les disputes entre ses parents qui augmentent, qui vont en augmentant, et sa mère qui perd peu à peu sa vitalité. Et un jour, donc ça c'est le point de bascule, un jour la mère est renversée par une voiture sous ses yeux et le conducteur disparaît. À partir de ce moment-là, cette jeune fille va commencer à observer ce qui se passe autour d'elle, à réfléchir, à essayer de reconstituer le puzzle, et en particulier le puzzle avec son père. Mais, je ne dirai évidemment rien de la fin, je ne vais pas vous découvrir ça, mais il faut se méfier des faux-semblants. Sonia Fairchak, elle a très bien lu Agatha Christie, très bien lu Agatha Christie.
Elle a écrit un bel essai sur Agatha Christie.
Absolument. Et elle en a lu d'autres aussi, on s'en aperçoit tout au long, et elle a également très bien lu les contes. Donc, il y a plusieurs fils à tirer dans ce roman, et la fin est une espèce de, comment dire, de twist auquel la plupart des lecteurs, bon, moi j'ai un petit peu l'habitude, alors j'ai un peu deviné, mais la plupart des lecteurs ne devineront pas du tout quelle est la fin. Voilà, moi j'ai trouvé ça très bien.
Ne vois-tu rien venir, c'est un roman de Sonia Fairchak et c'est publié chez Flammarion et c'était le choix de Christy Lapelle-Edouel. Allez, il est l'heure de retrouver l'ami du vendredi avec Guillemette Audicino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Alors, chère Ali, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il s'avère que les baguettes sortent du four au moment même où je pénètre chez le boulanger, je sais automatiquement ce que je dois faire. En acheter une et demi.
Ah bon?
Ainsi, le temps de parcourir les 324 petits mètres qui séparent ce divin commerçant de mon domicile, je peux me livrer à mon addiction, c'est-à-dire engloutir 125 grammes de croustillance tiède et irrésistible, et arriver tout de même à la maison avec une baguette entière. Car il faut... Il fait le... Oh, non, mais stop, arrêtez de m'agiter, hein, une baguette sous le nez, c'est pas sympa. Et je peux donc arriver à la maison avec une baguette entière, car il faut qu'il reste suffisamment de pain pour que je puisse ensuite me consacrer à ma grande amie, la tartine. Alors, son nom respire l'enfance et nous avons tous des souvenirs très précis de goûter grâce à elle. De grand-mère qui, au lieu de nous acheter des gâteaux industriels, préférait tartiner. De lieux de vacances où les parents de nos copains avaient une manière différente de mettre quelque chose sur du pain. Je me souviens encore de ma première tartine de pâté. Qu'on puisse manger du salé à 4 heures, c'était une révolution.
Et donc la tartine, c'est tout un art pour vous. Hein.
Oh, mais c'est un art, c'est une religion, c'est une foi. Alors il n'y a qu'à regarder Diva de Jean-Jacques Benex pour comprendre, grâce à Richard Bohringer, l'art de la baguette beurrée. Le beurre à bonne température, un couteau pas trop mince, mais pas trop épais, la mie fraîche, pas trop. Et le voilà en plein tartinage, parlant de ce mouvement comme du comble du zen. Et puis la tartine, c'est la démocratie, Ali. Tous les goûts et les couleurs du monde. Elle est aristo et paysanne, sophistiquée ou fainéante, beurre et confiture ou pas, beurre avant le roquefort ou pas, elle est fromage ou guacamole, elle est rôti de porc ou mozzarella. Elle ouvre tous les débats quand elle est grillée, car vous mettez le beurre sur le pain encore chaud pour qu'il fonde ou vous attendez qu'il refroidisse. Et puis surtout, vous trempez ou vous ne trempez pas?
Ah non, je trempe pas. Moi,
je trempe.
Voilà, alors inutile de faire semblant. Mon amie sait qui vous êtes. Elle sait quelle a été votre enfance. Votre tartine vous révèle. Et puis bien sûr, elle est au centre de la plus grande question scientifique. Pourquoi tombe-t-elle toujours du côté beurre? Récemment, j'ai lu un article qui se désolait de ce problème, car je cite, dans ce cas-là, il faut nettoyer le sol. Alors, intéressante indication sur la fréquence de ménage, parce que chez moi, le drame, c'est plutôt qu'elle atterrit sur mon lino, plein de poussière et de poils de chat. Alors, je vous rassure, il n'y a pas de malédiction tartinesque, comme l'a démontré très sérieusement le physicien britannique Robert Matthews, membre de la Royal Astronomical Society et de la Royal Statistical Society. En fait, ma délicieuse amie, soumise à la gravité, n'a le temps de faire qu'un demi-tour dans les airs avant de tomber sur le sol. Donc, elle choie plus fréquemment à l'envers. Alors, pour son travail, ce physicien a même reçu la version satirique du prix Nobel, décerné chaque année à des recherches insolites. Et surtout, il a désigné la vraie coupable, la hauteur de nos tables. Si elles étaient plus hautes, la tartine aurait le temps de faire un tour complet en tombant. Voilà. Je savais bien que ça ne pouvait pas être la faute de ma grande amie, qui n'a que de bons côtés.
Éric Birloez, sur la tartine, petit commentaire.
Oui, moi je suis tout à fait pour qu'on augmente la taille des tables, pour éviter que... Mais c'est vrai que la tartine, c'est une telle nourriture d'enfance, je suis bien d'accord avec Guillemette là-dessus, c'est incroyable. Et effectivement, de même qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas la même définition d'un bon pain, d'une bonne baguette, d'une bonne tartine. Et la tartine, c'est exactement pareil.
Mais on a tous une tartine, quoi.
Voilà.
Merci beaucoup, Guillemette Dessineau. Tous les épisodes de l'Ami du Vendredi sont à retrouver sur l'appli Radio France. Dans un instant, on continue à explorer les plaisirs du pain. Ce sera juste après avoir écouté Santi Gold, qui interprète Les Artists, un titre de 2008, 10h25 sur France Inter.
Drop up. Stop trying to catch my eye. I see you go.
Gold d'interpréter Less Artist.
Grand bien vous fasse. Ali Rebéi. Sur France Inter.
Je vous demande pardon si j'ai pas fait de pain aujourd'hui. C'est à cause du doute où je suis. Mais si vous me ramenez mon Aurélie, alors là, vous aurez un vrai boulanger. Je vous ferai un pain comme vous avez jamais vu. Un pain qui sera si bon qu'il ne servira pas d'accompagnement pour autre chose. C'est un pain qui sera un délice, un régal pour les gourmets. Vous ne pourrez plus dire « j'ai mangé une tartine de fromage sur du pain ». Vous direz « j'ai mangé une tartine de pain sous le fromage ». Et dans chaque pain que vous aurez, il y aura une grande amitié et un grand merci.
Grand bien vous fasse week-end, et on vient d'entendre la femme du boulanger de Pagnol, et nous célébrons donc le plaisir du pain en compagnie d'Éric Birlouet, qui publie chez Quai un beau livre, Le pain, une croustillante histoire, avec une magnifique boule de campagne en couverture. À quoi il ressemble, vous, Éric Birlouet, votre pain idéal?
Ben, c'est le pain qu'on fait à la maison, bien évidemment. Non, le pain idéal, pour moi, c'est un pain... Alors, on dit souvent que les ingrédients du pain, ben, c'est simple, c'est de la farine, de l'eau, du sel, mais on n'était pas autrefois obligé d'en mettre, et puis du levain, mais je crois que c'est surtout le temps. Donc, le pain idéal, c'est le pain auquel on laisse le temps de pousser, comme on dit, de fermenter. Donc un pain au levain naturel, parce que le levain naturel, c'est quand même quelque chose d'absolument formidable comme matière vivante de bactéries, de levures qui travaillent, qui sont spécifiques d'un terroir et qui créent donc cette magie de la fermentation qui permet au pain que j'aime, en tout cas, de pousser, d'avoir une jolie mie légère, alvéolée. Et puis quand on fait du pain avec des blés, c'est ce qu'on fait à la maison, en tout cas des blés anciens, je pense à l'engrain qu'on appelle le petit épeautre aujourd'hui, l'amidonier, ou des blés de variétés anciennes, on a des saveurs qui sont quand même extraordinaires. Alors je prétends pas qu'on le réussit à tous les coups, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant de retrouver cette mémoire du pain primitif finalement.
Et, alors on assiste, alors on célèbre ce matin les plaisirs du pain, mais on assiste à des controverses, à des questionnements sur les bienfaits et les méfaits du pain, du gluten, des pains modernes.
Oui,
beaucoup
alors,
de questionnements autour du pain.
Oui, beaucoup de questionnements. Et c'est vrai que le pain a été accusé, alors à tort ou à raison, parfois à raison d'ailleurs, hein, de beaucoup de maux. Enfin, j'ai lu qu'on avait même accusé d'être à l'origine de pathologies graves comme l'autisme, la polyarthrite rhumatoïde, etc. Ce que l'on sait de manière certaine scientifiquement, c'est qu'il y a une petite proportion de la population française autour de 1%, peut-être c'est un peu plus si c'était diagnostiqué, mais ça reste quand même très, très minoritaire en pourcentage d'intolérants au gluten. Mais ça, c'est une vraie pathologie qu'on appelle la maladie cœliaque. Donc là, effectivement, ces personnes doivent absolument pas consommer de gluten. Gluten qu'on ne trouve pas que dans le pain, d'ailleurs. Dans beaucoup d'aliments industriels, d'aliments transformés, les industriels utilisent le gluten parce que ça permet de donner plus d'onctuosité à leurs produits. Donc ça, c'est la réalité. Ce que l'on sait également, c'est qu'il y a peut-être 10-15% des Français qui se trouvent mieux quand ils ne mangent pas de gluten. Là, on ne sait pas très bien ce qui est en jeu. On parle de sensibilité non cœliaque au gluten. Donc c'est pas du tout la maladie cœliaque, mais c'est une... Donc on ne parlera pas d'intolérance, mais une sensibilité. Après, on sait que dans cette partie de la population qui est sensible au gluten, il y a aussi une part, ça existe toujours dans l'alimentation, d'effet nocebo. C'est-à-dire, si je me persuade qu'un ingrédient est mauvais pour la santé, le simple fait de l'éliminer fait que je me sens mieux. C'est l'inverse de l'effet placebo. Mais il y a des gens qui réellement ont des désagréments lorsqu'ils consomment des produits contenant du gluten et qui n'en ont plus. En fait, on ne sait même pas d'ailleurs si c'est une question de gluten. Les scientifiques disent que ça pourrait être d'autres composés, des sucres qu'on appelle les FODMAP en termes savants, qui pourraient avoir ces effets négatifs. Vous voyez, il y a une zone de flou autour de cette question-là. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que le pain au levain qu'on évoquait est un pain, les micro-organismes du levain prédigèrent ou commencent à digérer le gluten, et donc ce pain au levain, il est plus digeste que le pain fait avec la levure de boulanger. Et un dernier point, puisqu'on parle du gluten, c'est qu'on croit souvent que c'est la farine qui contient du gluten. En réalité, pas du tout. Le gluten ne se forme qu'au moment où vous mélangez la farine avec de l'eau, où vous pétrissez. Et donc là, vous avez un réseau qui se crée, un réseau de protéines qui sont liées entre elles et qui fait que quand il y a du gaz carbonique dégagé par les levures, les bactéries, eh bien ce gaz carbonique, il reste au moins un temps emprisonné dans le pain et c'est ça qui fait lever la pâte.
Grégory Cohen.
Oui, évidemment, hyper d'accord sur tout ce que vous avez dit. Il y a ce côté inflammatoire que les gens vont ressentir quand ils vont manger. Alors, ils font une généralité, ils disent que c'est une allergie au gluten. En réalité, ce n'est pas une allergie au gluten, ce n'est pas de l'allergie. C'est peut-être une forme d'inflammation ou d'intolérance. On se rend compte que quand on passe sur de la farine de blé ancien, alors on en a cité, il y a aussi la barbu du Roussillon, la rouge du Berry, qui sont des variétés super intéressantes, qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas eu donc du coup de pesticides et qui sont encore restées neutres. Et bien là, on a une digestion qui est beaucoup, beaucoup plus facile. Et la deuxième chose sur le réseau gluténique, c'est celui qui, effectivement, qui se forme et qui va nous permettre d'avoir justement les alvéoles et tout ce qu'on aime dans ce pain. Si on enlève ce réseau gluténique, on va se retrouver avec des pains très, très tassés, très denses, très condensés.
Éric Birouez, on a évoqué l'aspect magique du pain. Oui. Il y a également évidemment un caractère sacré des Égyptiens aux Grecs anciens, du judaïsme à la chrétienté. Et dans une moindre mesure dans l'islam, le pain, c'est un aliment sacré.
Oui, parce que je crois que tout simplement, c'est parce que ça a été l'aliment essentiel de l'humanité depuis le néolithique, depuis que l'homme cultive des céréales, même s'il faisait déjà du pain avant, parce que cultiver des céréales, on n'a rien trouvé de mieux pour nourrir une population en forte croissance. Donc on consommait des bouillies, des galettes ou du pain. Et donc ce caractère tellement essentiel du pain fait que c'est assez logique qu'on en fasse un aliment sacré. Et d'ailleurs, dès le néolithique, on va trouver dans les tombes des gerbes de blé, qui sert à faire du pain évidemment, du pain lui-même, et donc dans les grandes civilisations, Mésopotamie, Égypte, puis après évidemment Grèce et Rome, le pain, il est divinisé, il est associé à des divinités et il y a vraiment cette dimension très importante et les religions également. Alors on pense bien sûr à la religion chrétienne où les évocations sont extrêmement, extrêmement nombreuses. On sait tous que dans l'Eucharistie, le pain devient pour les chrétiens le corps du Christ. Donc c'est évidemment pas rien. Dans l'islam également, quand même, le pain, c'est vraiment l'aliment qu'on ne doit pas jeter. On doit être extrêmement soucieux de ne pas gaspiller le pain. Et dans le judaïsme, eh bien, le pain, il est présent sur l'autel, dans le temple, comme offrande à Dieu. Et il y a le fameux pain azim dont tout le monde a entendu parler, qui est le pain de la fuite précipitée, de la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse, où on n'a pas le temps de laisser justement, comme le disait Grégory, au pain le temps de fermenter et de donner cette mie alvéolée. Donc il est tout plat, c'est du pain azim et c'est l'hostie des chrétiens.
Alors Éric Birouez, le pain entretient un lien très fort avec son terroir, sa géographie, et c'est cette richesse géographique qui est un plaisir en soi.
Oui, oui, oui. Et donc il y a le pain, et pour faire le pain, il y a le levain, et le levain qui a un lien au terroir. C'est-à-dire que le levain que vous avez à San Francisco, il est très réputé, c'est pas le même que celui que vous avez à Altamura, dans les Pouilles, en Italie. Pourquoi ? Parce que c'est un écosystème microbien, et on n'a pas partout les mêmes bactéries, les mêmes levures qui vont permettre la fermentation du pain. Alors on a des pains qui sont extrêmement diversifiés, déjà par leur composition, parce que nous quand on pense pain, nous les Français on pense pain de blé, mais vous savez qu'on peut faire du pain avec beaucoup de céréales, le seigle qui est l'autre grande céréale panifiable, et puis il y a des céréales là moins panifiables, mais on peut les mélanger avec du blé, c'est l'orge, c'est le millet, c'est... Alors on fait aussi du pain de châtaigne, ça c'est pas une céréale, on fait du pain de manioc en Amazonie, dans les Caraïbes, on fait du pain d'igname en Afrique, on fait bien évidemment du pain de maïs et des tortillas au Mexique.
Avec donc, du riz en Asie aussi.
Voilà, le pain de riz. Donc on a finalement beaucoup de diversité dans les matières premières qu'on peut utiliser.
Grande diversité des pains également dans notre pays. Petit tour de France, des pains hexagonaux.
Oui, alors il y en a. Alors c'est Poilade qui avait dénombré. J'ai une carte qui présente ça. 80 pains. Il y en a peut-être plus. D'ailleurs, différents en France. Oui, elle est dans l'ouvrage cette carte. Et alors, en commençant par le Nord, c'est ma région d'origine, les Hauts-de-France. Il y a la crabique.
Hein, alors, c'est quoi la crabique?
Bah, c'est un pain brioché. Donc, c'est fait partie de ces pains qui sont enrichis avec du beurre, du lait, des œufs. Enfin, on peut mettre différentes choses.
Vous
parliez, Ali,
tout
à l'heure...
La fougasse provençale.
La fougasse provençale. Donc là, c'est l'huile d'olive, et puis on va mettre des herbes pour lui donner ce goût qu'on connaît. Il y a la couronne lyonnaise, la couronne bordelaise, avec les petites boules qui sont rattachées entre elles par un ruban de pâte. Il y a le pain brié en Normandie. Alors, le pain brié, c'est intéressant parce que c'est un pain qui a une couleur très blanche et qui est très... Oui, et qui est très dense. Et donc, on dit qu'à l'origine, on le pétrissait avec les pieds, parce que la pâte étant très déshydratée, elle est très dure à travailler, à pétrir avec les mains, et donc c'est ça qui donnait le bon goût du pain, Ali.
C'est quel pain brillé, d'accord. C'est encore le cas aujourd'hui, Eric Birmez?
On a remplacé les pieds par la brie. La brie, c'est un ustensile, une espèce de pilon de bois, et d'où le nom de pain brillé, parce que ce pilon s'appelait la brie.
Et nous accueillons Eric. Bonjour Eric.
Oui, bonjour.
Bienvenue. Alors, vous vouliez partager votre goût du pain, votre plaisir du pain, et vous fabriquez, vous créez des pains d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Alors, j'en fais pas souvent non plus, parce que c'est quand même compliqué. Bon, je suis pas un professionnel, évidemment, mais j'ai appris à faire le pain avec un ami portugais. Mm-hmm. On a construit un four ensemble. On habitait à l'époque en Île-de-France. Maintenant, j'habite à Orléans. Et à Orléans, on a réimplanté, on a acheté un four en briques réfractaire, fabriqué au Portugal. Et donc j'ai repris son enseignement, je fais des miches, mais il faut évidemment, l'un de vos invités en parlait, c'est l'éloge de la lenteur. Hein. Mm-hmm. Il faut faire son levain, parce qu'évidemment je ne fais pas de pain avec de la levure industrielle, donc il faut faire son levain, ça prend du temps. Et puis ensuite, faire du pain, le pétrir, le laisser lever, préparer son bois aussi, chauffer le four, tout ça, ce sont des opérations coûteuses en temps. Enfin, coûteuses en tout cas, ça prend du temps.
Quel est votre plaisir du pain? Racontez-nous votre plaisir gustatif quand vous dégustez votre pain maison, Eric.
Alors, moi, je l'aime beaucoup quand il sort comme ça. Il faut voir s'il est bien cuit, si il mérite d'être sorti. Et le craquer sans trop se brûler, c'est un plaisir inouï de tous les sens. Hein. Il y a le chaud dans la main, mais évidemment dans la bouche, mais il y a le goût dans la bouche, il y a l'odeur, il y a le visuel. Un pain réussi, c'est très beau. Quand il n'est pas réussi, c'est que du charbon de bois est tombé dessus. Enfin, c'est une catastrophe dans ce cas-là, mais ça m'est déjà arrivé. Et une des meilleures recettes que j'ai trouvées avec lui, avec cet ami, c'est quand on l'ouvre à la mode portugaise, on trempe ce pain, il y a beaucoup de mie, et on le trempe dans du sucre de canne mélangé avec de l'huile d'olive.
Pas mal.
Alors là, gourmandise.
Merci beaucoup, Eric, de nous avoir appelé. J'aimerais, Eric Birmez, qu'on évoque la baguette, devenue un symbole national, relativement récent, parce que la baguette naît au début du XXe siècle à Paris, et elle était destinée à une clientèle aisée.
Oui, tout à fait. Et pas du tout comme beaucoup de gens le pensent. La baguette, c'est pas un produit qui vient du fond des âges, du fin fond de nos belles campagnes françaises, qui nourrissait les masses paysannes. C'est ce que vous avez dit, Ali. C'est tout le contraire. La première mention de la baguette, on la voit apparaître en 1904, bon, ça fait à peine plus d'un siècle, dans un manuel de boulangerie. Et c'était donc, comme vous le disiez, destiné à une clientèle au départ plutôt aisée. Alors en fait, c'est le résultat d'une longue tradition de pain long à partir du XVIIIe siècle. On a commencé à faire, mais pour les élites sociales, des pains allongés, parce que ça permettait d'avoir une surface de croûte plus importante par rapport à la quantité de mie. Donc ça plaisait aux bourgeois, et puis petit à petit, ça s'est démocratisé. Sur la baguette, on raconte des légendes, alors je vous le dis tout de suite, ce sont des légendes, on dit que la baguette aurait été inventée au début du 19e pour que les soldats napoléoniens, les grognards, puissent mettre la baguette dans leurs bottes ou leurs manteaux. J'ai jamais trouvé que c'était extrêmement pratique de se balader avec une baguette dans sa botte.
Mais bon.
Et il y a une autre histoire qui est celle des ouvriers du métro. Donc là, on est au début du XXe siècle, qui est vraiment la date d'apparition de la baguette, en tout cas du mot baguette, où on dit que dans le chantier du métro parisien, les Bretons se battaient avec les Auvergnats. Et parfois, les rixes se terminaient à l'arme blanche, au couteau. Et pourquoi il y avait un couteau dans la poche des ouvriers du métro? C'est parce qu'ils en avaient besoin pour couper leurs grosses miches de pain pendant la pause. Et donc, quelqu'un s'est dit, donc, il ne faut plus qu'il y ait de couteau. On va inventer un pain que l'on peut rompre, que l'on
peut déchirer. On peut se battre aussi.
Voilà. Oui, mais ça fait moins mal. Ça fait moins mal.
Éric Birloise, vous avez fait partie du comité scientifique qui a permis à la baguette de faire partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Carrément. De l'UNESCO. Quels sont les critères d'une bonne baguette, Éric Birloise? On en a une que j'ai achetée à la boulangerie Basile, près de la Maison de la Radio. Excellente boulangerie parisienne. Donc voilà, je vous laisse...
Le bruit.
Alors, les critères d'une bonne baguette, comme le disait Guillemette, évidemment, mon point de vue ne sera pas celui des autres... participants autour de la table. Alors moi déjà, ce que je trouve très ce que je regarde, c'est comme le vin, c'est-à-dire quelle est la forme de cette baguette. Alors je vois les grignes. Alors les grignes, ce sont ces incisions que le boulanger fait sur la baguette, mm-hmm, ou sur le pain qui aide l'évacuation du gaz carbonique.
C'est
et donc elles sont très très jolies. Et c'est là où c'est croustillant. Oui. Le croustillant, c'est très important. Et puis la couleur dorée de la baguette qui est très importante. Alors après, quand on la rompt, eh bien on voit évidemment la couleur de la mie. Là, dans cette baguette, on voit que c'est une couleur bise et pas une couleur blanche. C'est pas une baguette très très blanche. Donc une farine de qualité, c'est-à-dire qui a été peu raffinée. Et puis après, il faut la déguster.
Allez-y, dégustez, Birloise.
Voilà, puis je vous en donne un
merci,
petit bout.
Merci, Guillemette, Odissino, voilà.
Alors, je vais parler à la bouche pleine, vous m'excuserez, mais déjà, l'attaque en bouche, je trouve très intéressante parce qu'on a d'entrée de jeu une bonne saveur, deux bonnes saveurs qui arrivent.
On a d'entrée de jeu un goût de levain.
Voilà. Et le levain, la petite acidité.
Cette délicieuse petite acidité.
Que j'aime beaucoup.
Ah, moi aussi.
Bon, mais merci pour cette dégustation de cette baguette parisienne de chez Basile. Après avoir dégusté cette baguette, il est temps d'écouter la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice. Et oui, une philosophie du levain, c'est possible avec Thibaut de Saint-Maurice. Tout est possible avec lui.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello, la philosophie. C'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Hein. Personne. Jamais.
Alors, ce matin, Thibault, vous prolongez notre discussion sur le pain, vous intéressant plus particulièrement au levain.
Oui, on vient d'en parler, Ali, au levain et donc à la nécessité qu'il y a pour faire un bon pain de laisser reposer la pâte pour que donc précisément le levain ait le temps de lever la pâte. On appelle ça le temps de pousse. Et c'est assez beau parce que ça donne l'image d'une croissance, d'un développement, un peu comme une plante qui pousse ou comme un enfant qui grandit. Et c'est la condition pour avoir un pain donc bien aéré et avec du goût. Alors ce temps varie en fonction du levain, de la pâte que l'on a façonnée, du résultat qu'on veut obtenir. Je ne suis pas spécialiste, mais d'après ce que j'ai vu, il faut un minimum de 2-3 heures. Ce bon pain qui a levé a d'autant plus de goût et de texture et se conservera d'autant mieux qu'il a donc eu le temps de se reposer au préalable. N'est-ce donc pas là une invitation à donner du temps au temps, comme on dit, à laisser reposer, à éviter toute précipitation? Derrière cet art du levain et de la boulangerie qui produit la base de notre nourriture, n'y a-t-il pas une sagesse susceptible de nourrir toute notre existence?
Et oui, comme une sorte d'éloge de la lenteur face à l'accélération du monde et de nos vies.
Magnifique, exactement. Quelle relance. Exactement donc.
On se demande qui l'a trouvé.
Voilà. La pousse du levain dans la pâte peut nous faire prendre conscience donc de l'importance du ralentissement et de la pause. Prendre le temps, ce n'est pas forcément perdre du temps. Parce que pendant la phase de repos, le levain n'est pas inactif. Il mène son œuvre invisible, toute intérieure, et lève donc la pâte. Face à cette accélération du monde moderne que décrit si bien le sociologue et philosophe allemand Hartmut Rosa, il est profitable de repenser la lenteur comme une vertu. De revenir à cette sagesse antique de l'adage grec « spede bradeos » que vous avez, ou si vous préférez en latin « festina lente », je vois que vous êtes encore perdu, donc si vous préférez en français sous la plume de Boileau, « hâte-toi, lentement. Une invitation à ne plus opposer la lenteur et la précipitation, mais à faire d'une certaine lenteur la condition de réussite de l'action. Laissez reposer donc, encore une fois, pour ne pas que l'émotion, la colère, la pression des autres ou la fatigue n'agissent à notre place et nous fassent rater ou manquer une étape. Prendre le temps de réfléchir, se donner du temps pour que pousse en nous, sous l'effet du levain de la délibération, la bonne décision ou la bonne action. À sa manière, c'est ce que le philosophe Aristote pensait sous le concept de prudence. Pour Aristote, la prudence n'est pas une simple précaution, mais une vertu à pratiquer pour transformer sa vie et mener justement une vie bonne. Tout le temps de la vie, l'homme prudent est celui qui se donne le temps de la réflexion en vue de l'action, là où l'imprudent, justement, ne fait que répondre à l'urgence de l'action. La prudence, c'est ce temps donc que nous nous donnons pour réfléchir, pour s'informer, pour considérer de façon plus fine une situation complexe. Et dans ce temps-là, nous faisons le lien entre ce que nous savons, entre l'expérience que nous avons acquise et entre les possibilités d'action que nous donne donc la situation. C'est une sagesse pratique. Ce n'est pas une timidité ou un manque de courage, mais c'est bien là, finalement, le levain de notre propre existence.
Éric Birloez.
Oui, mais c'est magnifique, hein, effectivement, c'est un bel éloge du temps et du levain. Et d'ailleurs, dans les anciens voyaient dans ce caractère magique de la pâte qui pousse, ils assimilaient ça au gonflement du ventre de la femme enceinte. Donc il y a aussi ce lien avec la fertilité, la fécondité, voilà, la prospérité, etc. Il y a beaucoup de choses derrière le pain.
Julie Neveu.
Oui, moi je comprends ce qui manque donc à mes pains, parce que ma mère fait du pain, je fais du pain, mes enfants font du pain, et à chaque fois c'est un peu un pain caillou. Et donc je pense que la lenteur a manqué à ce pain.
Grégory.
Le pain, c'est abyssal. C'est-à-dire que ça peut être aussi simple que d'une complexité extrême. Quand on rentre à l'intérieur du pain, on rentre dans tous les types de levains. On va nommer son levain, ça va devenir presque un enfant, qu'on va faire pousser, qu'on va élever, qu'on va aller voir tous les jours, qu'on va nourrir, qu'on va faire grandir. Bref, c'est un truc vraiment sans fin. À noter qu'on a gagné le championnat du monde de la baguette la plus longue, 140 mètres, et qu'elle est française maintenant. On a battu les Italiens.
Mais on ne sait pas si elle était bonne.
La petite cuite, philosophie de Thibaut de Saint-Maurice à retrouver sur l'appli Radio France, après les nourritures intellectuelles, les nourritures bien terrestres de Grégory Cohen. Alors, ce matin, Grégory Cohen, une recette qu'on retrouve à la carte de nombreux palaces, mais qu'il est possible de faire chez soi, c'est le club sandwich.
Tout à fait, à l'IREBI, c'est le club. Alors bon, je ne vais pas vous expliquer comment assembler un club sandwich, je vais juste vous donner les marqueurs du club sandwich et trois petites astuces pour pouvoir les réussir. Un club sandwich, c'est évidemment du pain. Donc pain de mie ou pain complet, c'est du blanc de poulet idéalement.
Du pain de mie qu'on peut acheter chez son boulanger, hein, c'est
encore meilleur. Chez son boulanger, c'est même ce qu'il y a de mieux. Du blanc de poulet, celui de la veille, idéalement. Du bacon ou alors de la dinde fumée. La salade, de la tomate et évidemment de la mayonnaise. Alors là, les trois astuces, c'est comment faire pour que son poulet soit encore juteux alors que c'est un poulet de la veille, comment faire pour que son bacon soit croustillant et comment faire pour faire une mayonnaise plus digeste et un peu plus légère. Alors pour que son poulet soit bon, on va le réhydrater. C'est-à-dire que le poulet de la veille, vous allez le prendre, vous allez l'effilocher, vous allez faire un petit bouillon et vous allez mettre un fond de bouillon dans une poêle très chaude. Vous mettez votre poulet dedans et vous le laissez se réhydrater, se réimbiber du jus du bouillon. Et vous allez avoir un poulet mais qui est exceptionnel. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce pour la mayonnaise, on sait que la mayonnaise, parfois, elle est un peu difficilement digeste. On la trouve lourde, on la trouve compliquée. Ça, c'est parce qu'on l'a fait avec un œuf cru. Faites-la avec un œuf dur et vous prenez le jaune de l'œuf dur et vous montez votre mayonnaise naturellement, comme une mayonnaise classique, c'est-à-dire avec un peu de moutarde. Et ensuite, on va la monter à l'huile. Si on veut la rendre un peu plus légère, on va rajouter un peu de yaourt, 0%. Et si on veut faire une mayonnaise encore plus légère, ce qu'on appelle la mayonnaise blanche, on va rajouter un petit peu d'eau froide dedans et on aura notre mayonnaise blanche. Et enfin, le dernier astuce, le dernier petit truc sur le bacon. Notre bacon, quand on le fait, il est rarement croustillant. Hein, et on comprend pas. On dit qu'il faut pousser la cuisson. En réalité, quand on pousse la cuisson, on ne fait que le brûler et on le rend pas croustillant. Donc, la petite astuce, c'est de rajouter un petit peu d'eau dans sa poêle. Ah. Et du coup, le bacon va frétiller, vous allez le voir frétiller de façon absolument incroyable. Il va s'hydrater et ensuite, il va relâcher l'eau et ça va créer cette croûte caramélisée, hyper croustillante, et donc on aura un bacon croustillant. Et après, on n'a plus qu'à assembler.
Sur le montage.
Et sur le montage, on va démarrer par son pain. Alors son pain, moi je mets un tout petit peu de beurre et je le fais à la poêle. Donc je le fais croustiller en même temps avec le beurre, ça va nous permettre de l'hydrater. Ensuite, on va démarrer mayonnaise, salade, poulet, pain, mayonnaise, salade, tomate, bacon, pain. On le coupe en quatre, c'est-à-dire en triangle. On met un petit cure-dent pour pas que ça parte dans tous les côtés. Et puis on a notre super
les
club sandwich.
Bah oui,
évidemment les œufs durs.
Évidemment,
bah oui. Évidemment les œufs durs.
Et on peut retrouver vos astuces et votre recette sur votre compte Instagram Grégory Cohen Off avec
deux F.
Et tout de suite, la chronique avec la langue de Julie Neveu.
L'aigle va fondre sur la vieille buse.
France Inter.
C'est chouette comme métaphore, non?
Grand bien vous fasse.
C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
Oh, fais pas chier.
Ça, c'est une métaphore.
Alors, Julie Neveu, à l'occasion des souhaits qu'on s'échange hein, pour cette nouvelle année, vous nous proposez un quiz. Êtes-vous plus ou moins impliquée dans vos relations?
Eh oui, elle dit, ce qui se joue là, c'est tout un rapport aux symboles et au langage et aux autres. D'ailleurs, si le profil obtenu ne vous plaît pas, ça fait une idée de résolution pour 2025, il n'est pas trop tard. Alors, que textez-vous, souhaitez-vous le plus depuis le 31 décembre à minuit? A, bonne année. B, et surtout la santé. C, que cette année te soit douce. D, plein de bonnes choses. E, des milliards d'auditeurs, du footing, du sexe et une meilleure relation avec ta sœur. F, je te souhaite de passer plus de temps avec moi. Alors d'abord, je rappelle que les souhaits sont des performatifs. Vous n'avez qu'à le dire pour le faire. Je m'excuse, hop, c'est fait. Je promets, c'est fait. Les souhaits, c'est pareil. Le 31, une fois que vous avez envoyé votre texto « Bonne année », vous pouvez aller vous coucher. Enfin, si vous avez fini de regarder Stéphane Bern sur France 2, bien sûr. Donc, ah, bonne année, bah là, c'est le souhait minimal, sous-impliqué, l'imagination collée au parquet. D'ailleurs, au travail, en ce moment, ça remplace « Bonjour ». 9h du matin, tiens Martin, bonne année, un petit café. Bon, même pas une petite gradation intensive, genre très bonne année ou super année. Alors, on peut aussi voir la formule bonne année hein, comme une formule qui masque le trop-plein de désir et d'amour, une sorte de pudeur virile à la Lino Ventura dans Bonne année de Claude Lelouch, quand il dit à Françoise Fabian...
Bonne année.
Bonne année Martin.
Celui-là, je l'ai envoyé. Pas mal. J'ai envoyé la vidéo pas mal.
Ouais. Ouais.
Vous l'avez reçu quand
même. Oui, je l'ai reçu. Ah, oui. Je l'ai pas reçu, Ali. Ah, bah, la pudeur virile. Bon, d'accord. Alors, B, et surtout la santé. Alors là, c'est l'implication vitale, hein, essentielle. C'est l'ami Covid, épidémie, pestilence. La formule, d'ailleurs, court déjà à l'époque gréco-romaine. Dans une lettre d'un certain Caïras à son médecin Dionysos, datée de 59, on lit mes vœux les meilleurs et santé continuelle. C'est que cette année te soit douce. Alors là, du subjonctif pour une phrase dite désitérative, c'est-à-dire qui exprime notre désir d'agir sur l'autre. Laurent Roussary, dans la grande grammaire du français, parle d'effacement du responsable. L'année prend le rôle du sujet dans la phrase. Toi et moi, en fait, on n'y peut rien. Donc là, il y a une implication modérée. Les mots vous intéressent peut-être autant que les gens. D'ailleurs, vous êtes peut-être ce qu'on appelle un amoureux du français. D, plein de bonnes choses, ma formule préférée. Alors là, grosse implication et toute petite imagination. Chose du latin, causa la cause, un des mots les plus fascinants du français, avec une référence si vague et qu'il a depuis des siècles plein d'emplois, dont bien sûr l'euphémisme, faire la chose, être porté sur la chose, mais aussi depuis le 18e siècle en adjectif, je suis chose, un peu chose, toute chose, puis aussi comme élément figé de grammaire. T'as fait quoi toi pour le nouvel an? Bon, pas grand chose. Chose qu'on retrouve en bas des cartes postales, à la place de bisous, bien des choses. C'est le titre d'un spectacle de François Morel. Avec un seul point commun pour ces emplois, la chose que chose désigne existe. Donc quelque chose, finalement, c'est toujours mieux que rien. Formule E, des milliards d'auditeurs, du footing, du sexe et une meilleure relation avec ta sœur, etc. Alors là, c'est le souhait qui se transforme en liste. C'est la surimplication, le maximum de l'empathie. Vous alignez votre perspective sur celle que vous imaginez être celle de l'autre. Vous tentez de cibler tous ces désirs avec une grosse prise de risque. C'est un peu le souhait kamikaze. Si vous êtes comme ça, bon courage. C'est fatigant, j'en sais quelque chose. Et oui, Alice, c'est mon profil. Mais j'ai pas osé vous envoyer ce texto. Voilà, pudeur virile oblige. Donc, alors qu'il y avait F comme je te souhaite de passer plus de temps avec moi. Grosse implication, mais purement narcissique. On assume ses propres désirs, mais on a l'alcool et le symbole un peu malheureux. On profite d'ailleurs du nouvel an bah, pour faire des reproches implicites. Je te vois pas assez. C'est un peu Al Pacino dans Le Parrain qui secoue Fredo dans une pluie de musique et de confettis et lui chuchote « Tu m'as brisé le cœur. You broke my heart. »
You broke my heart. You broke my heart.
Alors, en version plus joyeuse, c'est aussi Harry qui, sur le décompte 3, 2, 1, déclare à Sally « J'adore quand tu as le nez qui coule !» Bref, peut-être le 31, avez-vous envoyé des « Je t'aime » ou « Je te déteste, va crever » ou des SMS un peu pathétiques, comme celui que j'ai trouvé dans le corpus constitué par ma collègue Rachel Pankhurst et ses collègues, 88 000 SMS. Je le cite en conclusion « Je te souhaite d'être heureux. » Désolé de ne pas en faire partie.
Et on peut envoyer ses vœux encore jusqu'au 31 janvier. Et vous, vous m'avez envoyé « Bonne année, mon beau », de la douceur, des plaisirs, de la nature. Voilà. Merci beaucoup, Julie Neveu. On peut évidemment retrouver votre chronique sur l'appli Radio France. Merci beaucoup aux amis du vendredi, Thibaut, Guimette, Christina, Grégory et Julie. Merci beaucoup, Éric Birloise. Je recommande vraiment votre beau livre richement illustré, Le Pain, une croustillante histoire. C'est publié aux éditions Coyer. Et vous reviendrez, parce que j'aimerais qu'on évoque les pains du monde. On n'a pas eu le temps de parler de la richesse des pains du monde. Et vous reviendrez, Éric Birloise. Demain, je vous retrouve à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien avec Agathe Le Caron. Et lundi, comment manger sans culpabilité avec le professeur Boris Ancel.